Automne. De l'imagination, mais on sent un parti pris de se singulariser. Elle m'est restée dans la mémoire, cette note écrite à l'encre rouge en marge d'une composition française. J'avais 11-12 ans. En 30 lignes, je déclarais n'être point d'accord avec ceux qui nommaient l'automne un déclin, et je l'appelais, moi, un commencement. Sans doute, je fis mal entendre ma pensée qui n'a point changé, et je voulais dire que le vaste automne, insidieusement couvé, issu des longs jours de juin, je le percevais par des signes subtils, à l'aide surtout du plus sauvage de mes sens, qui est l'olfactif. Mais une enfant de 12 ans dispose rarement d'un vocabulaire qui soit digne de traduire ce qu'elle pense et ressent. Pour n'avoir pas choisi le printemps diapré et ses nids, je n'eus qu'une note médiocre. La fureur de croître, la passion de fleurir, se calme dans la nature à la fin de juin. Le vert universel s'est alors assombri. Le front des forêts prend la couleur des prairies de austères en mer peu profonde. Seule au jardin, la rose que l'homme, mieux que la saison, conduit. Certains grands pavots, des aconites, continuent le printemps, caractérisent l'été. Les sureaux sont tombés de fleurs à graines et les prés fauchés attendent le regain. Tous les jaunes épars, qui multipliaient en avril la couleur du poussin, ont passé. Chicorées sauvages, bleuets, brunelles. Voilà les derniers bleus de la saison, entre les vagues des blés pâlissants. Mais déjà, la campanule sauvage, la jacée, la scabieuse, font songer aux mauves des colchiques, veilleuses nées des premières nuits fraîches. Profonde verdure, illusion de stabilité, promesse imprudente de durée. Nous disons en la contemplant, c'est bien l'été. Alors que dans une aube sans brise, un passage de secrète humidité, un cirque de vapeur qui dénonce sur une prairie l'eau souterraine, alors que prédit par un oiseau, par une pomme véreuse, brillante dans l'huminure hectique, par une odeur de broussailles brûlées, de champignons et de vases à demi-sèches, l'automne traverse un impassible été. Ce n'est qu'un moment. Juillet reprend sa torride avarice. La pomme et la poire sont aussi âpres que la noix verte. Un reliquat de durs bigarreaux pend à quelques cerisiers. Les fraises, les groseilles et les cassis sont fondus en confiture. Quand, ah, quand viendra l'automne aux mains pleines? Il est déjà là. Si vous savez traduire au revers de la feuille qui a chu sans cause une transpiration étincelante et lire le zigzag diamanté qu'attendu l'épère sur les cimes des buis. Aux deux bouts d'un jour encore démesuré, l'aurore et le couchant souffrent des mêmes feux. La sécheresse est sur nous et l'orage seul fournit une écrasante rosée. Cependant, la sorbe rougit. Aucun oiseau n'a plus la petite voix de l'oisillon et quelques monnaies ovales se détachent des acacias, planent incertaines avant de tomber foudroyées. 2 mois plus tôt volaient, teint du même jaune pâle que les feuilles caduques, le papillon citron. Mais déjà le sort du papillon citron est réglé. Trouvé à sa place le merveilleux pan du jour, semé de planètes bleuâtres, le vulcain méfiant qui n'a jamais trop chaud, et la belle argine, car cela persiste jusqu'au gelé. Un long couloir de verdure sombre nous reste à franchir. Nous voulons bien le nommer le bel été. Bel et grave, moutonnant, adouci quand il voisine avec la mer et les lacs, il a, même en France, des zones terribles et sous son poids le gibier sauvage maigrit. Les lièvres, plats, terrés, battent des flancs. Où trouverait-elle de la glaise humide pour se faire un pansement? La bécasse a les chasses brisées.